Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Nous poursuivons notre série avec une question qui a fait couler beaucoup d'encre, la Révolution française et le climat. En un mot, la Révolution française est-elle la conséquence du grand hiver 88-89 qui la précéda ? Disons que le climat a fourni l'humus et que l'arbre de la Révolution s'est développé là-dessus, avec son ADN propre qui n'a rien, lui, de météo. Voilà ce que vous écriviez, Emmanuel Leroy-Ladurie, dans « L'événement climatique et ses représentations », un livre collectif paru aux éditions Desjonquères. En somme, comme elle arrive souvent en histoire, un événement n'a jamais qu'une seule cause, a fortiori quand il s'agit d'un événement du calibre de la Révolution française. Remettons donc les choses à leur juste place et disons que le climat est un des facteurs ayant contribué au déclenchement de la Révolution française, qu'il convient d'étudier au même titre que les autres, politiques, économiques, culturels, cela. Pouvez-vous revenir en détail sur cette année 88-89 d'un point de vue météorologique ?
D'abord, la Révolution française, bon, je pense que les travaux de Furet, de Georges Lefebvre, de Sobol, etc., ont éclairé la chose. Et de ce point de vue, je dois vous dire que bien que j'étais un grand ami de Furet, je pense qu'il y a à prendre dans les travaux de la gauche. Parce que eux, ils se sont intéressés aux émeutes de subsistance, que l'école de Furet n'a pas du tout considéré. Ça n'empêche pas la grande valeur de Furet, bien sûr. Alors, sur la Révolution française, bon, ben, on sait tout ce qu'il faut savoir. Le rôle de la bourgeoisie, de la noblesse libérale, de l'endettement de l'État, c'est une question... Bon, aucun problème de ce point de vue. Mais enfin, il y a une piche nette. Il y a une allumette, en quelque sorte, un élément provocateur, c'est 1788, plus exactement 87-88. 87, c'est de la pluie sur les semailles, ça a donc un peu diminué le rendement des semences. 88, c'est un coup d'échaudage, semble-t-il, un été à la fois chaud, avec beaucoup d'intempéries, de tempêtes, de grêles, etc., et une mauvaise récolte, dont on peut estimer qu'en 88, elle est peut-être à 30% au-dessous du niveau normal. Ce n'est pas du tout une catastrophe. Je dirais qu'il n'y a pas un mort, à la différence de ce qui s'est passé en 1740, etc. Mais en revanche, au point de vue de l'agitation, c'est fantastique. C'est-à-dire que cette récolte est en mauvaise. Les prix se sont élevés, c'est pas du tout une famine. La France est déjà sortie de l'époque des famines. Mais c'est un mécontentement social très grand et ce sont de très nombreuses émeutes de subsistance qu'on trouve pratiquement dans toutes les villes et qui culminent en juillet, justement, juillet 89, à la veille de la nouvelle récolte, puisque c'est le 13 juillet, je parle de mémoire, qu'à Paris, vous avez deux émeutes de subsistance absolument considérables, et le lendemain, vous avez le 14 juillet.
Et notamment les émeutes féminines de subsistance.
Alors, précisément, l'émeute de subsistance est une chose vraiment absolument typique. Les premières qu'on connaît, mais il y en a toujours eu, il y en a au Japon, il y en a en Chine. Les femmes y jouent un grand rôle. Que se passe-t-il en 1788 comme ailleurs? Mauvaise météo, soit trop de pluie, soit trop de gel, soit trop de chaleur, récolte diminuée, prix qui monte, alors en temps d'ancien régime, mortalité accrue, nuptialité diminuée, natalité diminuée pour différentes sortes de raisons, émeutes de subsistance, et là, après tout la révolution au départ était une série d'émeutes de subsistance, prière, importance religieuse, du fait religieux, pas tellement en 1788, mais disons dans les siècles précédents, et c'est un phénomène répétitif, une espèce de structure qui revient régulièrement et qui est revenue en 1788 à ceci près que, au lieu d'avoir une mortalité énorme, il n'y a pratiquement pas de mort, mais il y a une fantastique agitation plébéienne et qui va bien sûr, faut-il dire dégénérer, le terme ne serait pas aimable pour la Révolution, mais se développer de façon absolument indépendante de l'événement qui précédait.
Et vous venez de dire qu'il n'y avait pas eu justement de mort en 88-89, en tout cas liée à la météo. Mais il y a une autre grande crise climatique que j'aimerais aborder maintenant, oui, qui est moins connue, je crois, du grand public, c'est celle de 1794-95. Alors, pourrions-nous nous arrêter un moment sur cette crise et puis voir ensuite quelles sont les similitudes et puis les différences entre 88-89 d'un côté et 1794-95 de l'autre?
Alors, vous avez parlé du reste du très grand hiver, 88-89, il joue un faible rôle. Parce que les carottes sont cuites depuis l'été 88. C'est pour ça, même Furet parle de ce grand hiver. Non, il est intéressant en soi, il a dû un petit peu agiter les gens, mais c'est pas du tout lui la causalité. Alors après ça, eh bien, la Révolution a d'assez bonnes années, enfin des années normales, 90, 91, 92, 93, et on peut dire que Robespierre va pouvoir développer son intéressante expérience de chirurgie sociale dans des conditions assez faciles. Mais les choses changent justement au moment de la mort de Robespierre, et ça n'a rien à voir. C'est Thermidor, c'est l'été
94,
oui. 94, et c'est un été d'échaudage.
L'échaudage, c'est quand les blés grillent, c'est
ça ? Oui, enfin, accompagné de sécheresse, c'est un été fort chaud, et donc une mauvaise récolte, qui n'est pas une catastrophe en soi, mais qui se passe à un moment où il y a un blocus anglais des importations.
Puis la France est en guerre.
Et ça, la France est en guerre, et donc c'est probablement beaucoup plus grave, beaucoup moins important au point de vue des conséquences. En fait, c'est important aussi d'une autre façon. Eh bien, classiquement, mauvaise récolte en 94. Bon, les montagnards sont décapités, mais enfin, c'est triste, mais c'est un autre aspect de la question, bien sûr. Et au printemps 95, on a quand même, bon, j'allais dire, une demi-famine. On connaît mal la mortalité, puisque les curés ne tenaient plus les registres paroissiaux. Mais enfin, ce qui n'avait pas été le cas en 88, 89, là, on a une véritable mortalité. Et puis alors, des émeutes de subsistance extraordinairement politisées. C'est-à-dire que, à partir du, l'espèce quand même, de grosses disettes. Famine, c'est un bien grand mot, on n'est pas en Somalie quand même. Mais enfin, au printemps 95, car c'est toujours pareil, le mécanisme, la récolte est mauvaise dans une année, mais les catastrophes politiques sont du printemps suivant. Au printemps 95, les sans-culottes parisiens se mobilisent, sont furieux. Il y a une série de journées floréales, etc.
Je crois que c'est Prairial.
Et là, c'est Prairial, et c'est une
début mai.
Très grosse affaire. Alors, la bourgeoisie parisienne, un terme simpliste, à la fois politique, enfin révolutionnaire modéré et royaliste, certainement, se mobilise contre ce qu'on appelle le peuple des sans-culottes. Et de même que l'affaire, la crise de subsistance de 1788 avait ouvert la Révolution française, celle de 1795 la ferme. La révolution continue, mais désormais, elle rentre dans son lit.
Au moins, la révolution radicale, disons.
C'est ça. Il y a une déjacobinisation, si vous voulez. Et on n'a plus qu'à attendre le coup d'État de Brumaire. Mais ce sont des journées très dures, les journées de Prairial. Et qui, effectivement, sont une émeute de subsistance, mais alors politisée à fond, quoi.
Pour résumer, pour nos auditeurs, donc on avait un été chaud, puis un grand hiver froid en 94, qui est comparable à 88, avec un printemps-été chaud et puis des intempéries d'été. Et un grand hiver 88-89. Mais la différence, on vient d'en parler, c'est en termes de conséquences démographiques.
Démographiques et politiques. C'est-à-dire, démographiquement, il n'y a pas d'impact en 80, pratiquement pas, donc je crois pas. C'est soi-disant une année heureuse, bon, peut-être, en 88-89. Mais il y a un énorme impact gigantesque, puisque c'est un tsunami, on peut dire. Assez imprévu, révolutionnaire. Et inversement, en 94-95, il y a tout de même une espèce de catastrophe de subsistance et un impact politique, c'est-à-dire là aussi une tentative d'émeute de subsistance politisée, mais une répression qui désormais ferme le cours de la Révolution et la fait rentrer dans son lit.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts dues à ces conséquences
De disettes ?
Oui.
Eh bien, pas trop, parce que si vous voulez, on connaît très bien les mortalités de 1693, 1 300 000 morts, c'est gigantesque. De 1709, le grand hiver, 630 000 morts, je crois. Et puis après, il y a un tarif à 100 000 morts à peu près, 1740, etc. Mais là, on n'a pas les bonnes archives. Mais ce que j'ai pu voir d'après la démographie des villes, il y a un impact, qu'il ne faut pas exagérer du reste. Mais il y a quand même un impact. N'oublions pas aussi que les paysans, à certains égards, vivent mieux, puisqu'il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus de droits seigneuriaux, les impôts sont plus ou moins bien perçus. Donc la situation est assez complexe. Et alors, on pourrait faire des réflexions un peu différentes sur 1830 ou 1848.
Oui, je vous en prie, peut-être rapidement.
Alors, 1830, c'est sur là aussi la bourgeoisie qui veut un gars pour sûr du pouvoir, bon, etc. Liberté de la presse et tout, c'est évident. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a une série pluvieuse qui va de 1828 à 1831 et qui crée, alors que les récoltes avaient été bonnes, quelques mauvaises récoltes, une forte hausse des prix, une cherté, qui est l'une des innombrables causes du mouvement populaire de l'été 1830, après le très grand hiver de 1829-1830, dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences, et puis surtout Lyon. C'est-à-dire que la cherté des subsistances est l'une des causes des révoltes lyonnaises de 1832, a posteriori.
Et pour 1848 ?
Alors, 1848, bon, c'est un événement, on a porté des cadavres la nuit à la lueur des torches, et puis bon, le brave Louis-Philippe, qui n'était pas si méchant que ça, a été renversé. Mais ce qu'il y avait eu avant, qui est ou une cause, ou en tout cas un contexte, c'est 1800, la maladie de la pomme de terre, qui n'est pas du tout climatique, elle est un champignon revenu d'Amérique, qui crée une famine de type médiéval en Irlande.
Plus d'un million de morts, je crois.
Une famine médiévale, et chez nous, simplement, aide à la crise de subsistance qui est provoquée, elle, par la canicule de 1846. Alors, en 1846-47, vous avez le mélange pommes de terre, pain, c'est trop. Les gens s'étaient habitués, le peuple, le petit peuple, à se nourrir à la fois de pain et de pommes de terre. Et là, cette fois-ci, bon, la population de la France a augmenté. On doit être quand même à pas loin de 35-36 millions d'habitants. Et il y a quand même, non pas 100 000, mais 200 000 morts supplémentaires. À quoi il faut s'ajouter probablement un effet de canicule en 1846 avec une mortalité infantile qu'il faudrait revoir. Et ce qui se passe, c'est que le pouvoir d'achat populaire se reporte sur le pain. Et par conséquent, le textile entre en crise. Parce qu'il y a un manque d'achat, sous-consommation du textile, et vous avez une grosse crise textile dans les départements concernés, la Seine-Maritime, le Nord-Pas-de-Calais, etc. Et donc 1847 est une année de grosse crise économique, de type de, comme c'était à cette époque, qui avait du reste intéressé Mitterrand, je me souviens, à propos d'une révolte populaire assez meurtrière qui a eu lieu dans sa région de la Nièvre ou environ. Et puis, alors, ce qui se passe, c'est qu'en février 48, sur cette ambiance de mécontentement, bon, il y a un hasard, qui est la promenade de flambeaux, de cadavres, vous voyez, qui, du coup, le régime de Louis-Philippe, qui était, Louis-Philippe était un type pas mal, mais qui était fragile, s'écroule.
Merci Emmanuel Leroy à la Durie d'être venu jusqu'ici. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif publié sous la direction de Jacques Berchtold, Jean-Paul Sermin et vous-même, L'événement climatique et ses représentations, 17e-19e siècle, histoire, littérature, musique et peinture. C'est paru aux éditions Desjonquères en 2007. La prochaine fois, nous aborderons avec vous un phénomène qui prit naissance sous Louis XI et que vous avez appelé la politisation du climat. Nous partirons donc de la fin du XVe siècle, puis nous avancerons dans le temps pour arriver jusqu'à nos jours, à la recherche d'autres moments dans l'histoire où la politique s'est emparée du climat. Au revoir.